Session sur la Trois Sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe, 12e conférence, le 19 septembre 2001 à Saint-Gédard.
Continuons de comprendre cette sagesse complexe. La sagesse philosophique est beaucoup plus simple comme sagesse. Elle va moins loin. Elle respecte l'obscurité de la connaissance de Dieu, qui ne peut être atteint que par une connaissance analogique. Donc, jamais directement. Tandis que la foi, qui commande la théologie, nous donne une adhésion directe, aimante, puisque la pia affectio, c'est-à-dire une affection profonde vis-à-vis de Dieu lui-même, l'auteur de notre intelligence, est à la racine de la foi. La foi n'est pas une connaissance rationnelle. La foi est une connaissance d'enfant. Il ne faut jamais l'oublier, puisque c'est à partir de l'amour, de la charité, pas la charité, un amour divin qui n'est pas la charité, qui est premier. Notre intelligence adhère divinement à la parole de Dieu. Au mystère divin, Dieu qui parle. La foi adhère plus qu'à la parole. Elle adhère à la présence. On écoute. On entend, ex auditu. La foi entend Dieu qui me parle. Elle adhère à une parole vivante, c'est-à-dire une parole qui est unie à sa source. C'est ça la parole vivante. Et adhérant à cette parole vivante dans l'obscurité, puisque c'est sur l'autorité de Dieu que je m'appuie, Dieu ne peut pas me tromper, Dieu me parle. Et Dieu a parlé au prophète. Dieu a parlé à son fils bien-aimé. Et son fils bien-aimé m'a parlé à travers l'évangile. J'adhère à cet enseignement. Et j'essaie, c'est tout le rôle de la théologie, de saisir la richesse infini de la parole divine, de la révélation. La parole de Dieu me révèle ce qu'est Dieu. Une révélation de Dieu, Dieu qui me parle et qui me parle en empruntant, en prenant un langage humain, mon langage. Il a parlé différemment dans l'Ancien Testament. Il a parlé d'une façon beaucoup plus forte avec Jésus. C'est Dieu lui-même qui, à travers l'humanité de Jésus, me parle. C'est le Verbe de Dieu. Et c'est pour ça que chaque parole divine est lumière. Mais je ne la reçois pas comme une lumière. Je la reçois dans l'obscurité. Mais cette parole m'est donnée. Et j'essaie d'en extraire, d'en préciser le contenu. Et pour cela, le théologien se sert de la philosophie, mais attention, la théologie se passe entièrement dans l'adhésion de foi dont l'existence, l'acte d'existence, touche Dieu, Dieu me parlant, Dieu me révélant ce qu'il est, me révélant ce qu'est l'homme, me révélant ce qu'est son Fils bien-aimé, ce qu'est l'Église. Et le croyant se sert des rationes philosophiques et non pas de l'adhésion existentielle de la philosophie. Vous voyez, tout le problème est là. Il n'y a qu'une adhésion existentielle, celle de la foi. J'adhère à Dieu vivant, à Dieu qui me parle, à une personne. Toute adhésion de foi implique une adhésion à Dieu me parlant. Et me parlant à travers Jésus. Et me donnant la parole divine. La philosophie implique toujours une adhésion intellectuelle, existentielle, à la réalité, puisque toute la philosophie réaliste commence par l'expérience. Et cette adhésion au réel est toujours en acte. Durant toute ma philosophie, je ne fais pas la philosophie du possible. Il y a eu des philosophes qui ont fait des théologies du possible. Des théologies du possible. En réalité, il restait des philosophes. J'ai le droit de faire des hypothèses en philosophie du possible. Le théologien ne fait pas d'hypothèses du possible. le théologien parle de la foi. Dieu existant et la parole de Dieu qui est communiquée à Dieu qui me parle. Donc, l'adhésion existentielle, philosophique, est dépassée et laissée de côté. Le jugement d'existence, ceci est, qui est présent à toute la philosophie réaliste. La philosophie réaliste ne quitte jamais le jugement d'existence. Elle ne veut pas le quitter. Elle demeure dans le jugement d'existence. Je ne fais pas la philosophie des possibles. La philosophie se distingue des mathématiques qui, elle, est toujours dans le possible. Et n'a pas le jugement d'existence. Le mathématicien ne touche pas le jugement d'existence. Tandis que la philosophie réaliste, elle ne quitte pas le jugement d'existence. Quand je découvre la substance, quand je découvre l'acte, le point de vue existentiel est toujours transformé, c'est plus l'expérience. C'est le principe. Mais un principe, c'est quelque chose de réel. Donc l'existence est en acte dans un principe. Mais il n'est pas ce qui est premièrement saisi. Je saisis le côté nécessaire de l'existence dans un principe. C'est le propre d'un principe, ça. Qu'il s'agit de la substance qui est de l'acte. Toute ma philosophie réaliste ne quitte pas le jugement d'existence. C'est la différence entre des philosophies idéalistes à type mathématique ou à type platonicien. Les raisonnements de Platon ne regardent pas tout le temps, à chaque instant, dans le point de vue existentiel, ce qui est, est lointain. Tandis que dans le propre de la philosophie réaliste, celle d'Aristote, je spécule toujours sur quelque chose qui existe. J'atteins un principe qui existe, mon âme. Il existe selon un mode particulier de principe, mais il existe. Alors, vous comprenez que dans la théologie, le principe existentiel de la réalité, de l'homme, est dépassé, puisque c'est la parole de Dieu qui existe. Il n'y a pas deux existences. Il y a l'existence infinie de Dieu, et il peut avoir l'existence créée. Quand je dis « je suis une créature », je dis ça dans la lumière de l'existence de Dieu. Je ne peux dire ça que dans la lumière de l'existence de Dieu. Actuellement, Dieu me crée. Et je touche l'existence de cette créature que je suis. Quand je pose le jugement de foi, que je dis, je suis une image. de Dieu. Je suis le Fils bien-aimé de mon Père, Dieu. Cette affirmation est dépendante de l'acte de foi du Dieu créateur. Et donc l'existence qui est impliquée dans cette affirmation n'est plus l'existence philosophique que j'atteins par ma philosophie. C'est une existence que j'atteins dans un regard de foi en la parole de Dieu. En théologie, l'existence n'est plus l'existence que j'atteins par la philosophie, mais c'est l'existence que j'atteins par la foi. Quelle existence atteignez-vous par la foi ? Celle de Dieu. Dieu existe. J'adhère à Dieu existant pour moi. Dieu existe pour moi. Et mon existence vient de Dieu. Dieu m'a créé, Dieu m'a sauvé par le Christ. Et je suis dépendant radicalement de Jésus. Il faut bien comprendre cela pour comprendre le propre de la théologie. Le théologien se sert de ce qu'il a d'ultime dans ma philosophie réaliste, les rationes, les raisons, qui n'impliquent aucune imperfection. Quand je dis « Dieu est bon », le Christ me révèle la bonté du Père. Et je réfléchis sur cette bonté du Père. Je réfléchis sur ce que c'est que la bonté. La ratio boni. Elle n'implique, elle, aucune imperfection. Elle vient bien des créatures. Je réfléchis sur la bonté du cheval. Si je suis anglais, la bonté du cheval, la bonté du chien, la bonté de mon camarade. J'emploie toujours le mot « bon », chaque fois dans une signification différente. Un cheval bon, pour un bon cavalier, n'est pas un cheval bon pour un novice cavalier. C'est sûr, il ne va pas commencer à monter sur un pur sang. Non. Il sera mis tout de suite out. Je saisis petit à petit la ratio boni, qui, elle, n'implique aucune imperfection, mais qui implique l'existence. La bonté ne peut exister que dans un être existant. Autrement, j'aurais une bonté abstraite, j'aurais l'idée de bonté. Là, je parle de la bonté. Et cette raison, cette ratio boni peut être assumée par une adhésion de foi quand je dis Dieu est souverainement bon. Vous voyez, le propre du théologien, c'est grâce à la lumière de foi dans l'obscurité, de préciser les qualités propres de Dieu, ce qui est caractéristique de Dieu. Il est souverainement bon. Il n'est que bonté. Moi, la bonté, ça s'ajoute au reste. Je suis un être humain, une créature. Je suis un être humain qui est bon. Mais je ne suis pas totalement bon. Je suis limité dans ma bonté. Et je peux me mettre dans des situations où je comprends très bien la limite de cette bonté. Si on m'attaque, je réponds. Et je réponds pas d'une façon bonne. Je réponds pour écarter l'ennemi. C'est ce qui arrive dans toute guerre. Je sais que je suis limité dans ma bonté. Tandis que quand je dis que Dieu est bon, je dis que Dieu est infini dans sa bonté. Et sa bonté, c'est son être. Plus de distinction. Mon être, moi, mon être n'est pas bon. Il peut être méchant à cause de mes actions. Je suis bon par mes activités. Ma bonté substantielle est limitée. Et je découvre que la ratio boni, elle, peut être assumée lorsque, comme théologien, j'essaie de préciser ce qu'est l'être premier, ce que sont les perfections propres de Dieu. Et je vois qu'en effet, toutes les réalités qui n'impliquent pas de limites peuvent attribuer à Dieu, parce que Dieu est infini. Je ne peux pas attribuer à Dieu une qualité limitée, la raison, la ratio. Dieu est intelligent. Mais Dieu ne raisonne pas. Moi, je raisonne parce que je suis une pauvre intelligence. Alors, mon intelligence a besoin de raisonner pour avancer. Je ne peux pas tout de suite saisir. J'ai besoin de raisonner, d'analyser. Et en analysant, en raisonnant, j'avance petit à petit. Le côté scientifique est nécessaire pour aborder la sagesse. Je vois comment l'intelligence, atteignant des qualités qui, en elles-mêmes, n'impliquent pas de limites, n'impliquent que la perfection, peuvent être assumées par la foi pour montrer les qualités du mystère de Dieu, montrer ce qu'est Dieu, puisqu'il n'y a pas d'accident en Dieu, n'y a pas de propriété en Dieu. Tout est essentiellement un. Et lorsqu'il s'agit d'atteindre le mystère de Dieu en lui-même, je ne peux pas passer directement des créatures à la très sainte Trinité. Je peux passer directement des créatures au Dieu créateur. Tout ce qu'il y a en moi d'absolument parfait, n'impliquant aucune limite, je puis l'attribuer à Dieu. Mais le Dieu trois fois saint, le Dieu trinitaire qui m'est révélé, je dépasse en moi des similitudes, des notions analogiques directes du mystère de la très sainte Trinité. Il faut alors se servir d'un nouveau procédé qu'on appelle saisir les analogies de similitude. Et les analogies de similitude me permettent de poser en Dieu des similitudes analogiques, c'est-à-dire des similitudes qui sont totalement différentes que celles qui sont en moi. C'est vrai, le théologien doit regarder le mystère de Dieu en lui-même, et le théologien doit regarder le mystère trinitaire. Lorsqu'il parle du mystère de Dieu en lui-même, il sait que l'intelligence humaine est capable d'atteindre cet absolu, cet infini. Tandis que lorsqu'il s'agit du mystère de la très sainte Trinité, il sait que les exemples qu'il peut avoir au plan philosophique, au plan humain, au point de vue philosophique, ne lui disent rien du mystère de la très sainte Trinité. Rien directement. Tout par mode de similitude. C'est révélé. Si le mystère de la très sainte Trinité n'était pas révélé, je ne pourrais pas en parler. La philosophie peut parler du Dieu créateur, mais la philosophie ne peut pas parler du mystère de la très sainte Trinité. C'est pour ça que dès que j'aborde en théologie le mystère de la très sainte Trinité, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, les mots Fils et Esprit sont similitudes par rapport au Fils, par rapport aux similitudes. Mais je ne peux pas directement, à partir du Fils, poser en Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Je ne le pose que grâce à ma foi, que grâce au langage de Dieu, grâce à la parole de Dieu. Par moi-même, je ne pourrais pas. Il y a donc deux analogies différentes. Une analogie de l'être, qu'on se sert en métaphysique, qu'on se sert aussi en théologie, pour affirmer l'unité de Dieu, et la théologie me fait découvrir en Dieu qu'il y a quelque chose de nouveau sur le mystère de Dieu qui m'est révélé et que je puis, à l'intérieur de la révélation et soutenu par la révélation, essayer de découvrir la théologie de la très sainte Trinité, qui est la théologie du Fils et de l'Esprit Saint. Et il y a un mode différent de parler de Dieu en lui-même et de parler de Dieu Père, Père du Fils, Père de l'Esprit Saint. L'analogie de similitude qui ne me donne pas l'existence de la chose, mais dit simplement qu'il y a quelque chose de semblable. Analogie de similitude. Ça touche les similitudes. La différence et les similitudes. Ça ne touche pas le point de vue existentiel immédiatement. Le point de vue existentiel m'est donné par la foi. Et dans la foi. Et ce n'est pas le théologien qui la découvre. Je ne découvre pas la très sainte Trinité. Comme je peux découvrir l'âme humaine. La très sainte Trinité, dans son existence propre, m'échappe complètement. Au point de vue philosophique. Mais la très sainte Trinité peut m'être révélée. Et pour expliciter cette révélation, je prends ce procédé particulier d'analogie de similitude, où je regarde l'infini trinitaire et où je mets en parallèle les réalités créées spirituelles où je puis découvrir des similitudes. Mais je ne touche pas à la raison d'être uniquement aux similitudes. Il y a là quelque chose de très propre à saint Thomas, qui est très lumineux quand saint Thomas essaie de faire la théologie de la très sainte Trinité. Et c'est là où Thomas d'Aquin ajoute, précise, ce que saint Augustin ne faisait pas toujours. Saint Augustin se servait de l'analogie, c'est sûr, de l'analogie métaphorique, mais ne faisait pas cette distinction très nette que saint Thomas fait entre l'analogie de l'être et l'analogie de similitude. C'est évident que ça ne prendra son sens plénier pour vous que lorsque vous étudierez dans saint Thomas le traité de la très sainte Trinité. Dans l'Écriture, la distinction n'existe pas. L'Écriture nous parle des réalités humaine, des personnages particuliers, d'un Abraham, d'un Isaac, d'un Ismaël. L'Écriture nous parle de ces petites luttes qui commencent à exister entre Isaac et Ismaël et la mère d'Isaac qui regarde ça. Et tout ça, c'est très humain, non ? C'est révélé sous le regard de Dieu. C'est très humain, mais vu dans une lumière divine. Et je le lis en croyant. Je pourrais très bien le lire en philosophe. Je connais un philosophe que j'aime beaucoup. Il n'est pas très connu, mais parce qu'il s'est mis dans les études très particulières. Mais il me dit, le livre que j'aime le mieux, le plus, c'est l'Écriture. Il le lit en philosophe. Il me dit, c'est extrêmement intelligent. Je ne peux pas évidemment lire l'Écriture en philosophe. On découvre le caractère d'Abraham. La grandeur d'Abraham, une petite jalousie maternelle. Je pourrais faire un traité de l'éducation uniquement en regardant très près ce qui m'est donné sur ses premiers foyers. Le livre de la Genèse me montre très bien ce que sont ces foyers premiers, tels que Dieu a voulu qu'ils soient. Et j'aurais de quoi découvrir là des quantités de choses terriblement humaines et qui me sont révélées. Et si je n'ai pas la foi, je les prendrai uniquement comme un récit très intéressant. Je comprendrai bien que l'histoire d'Abraham est très intéressante. Vous voyez, il y a deux lectures de l'Écriture. Vous pouvez lire l'Écriture en philosophe. Vous pouvez lire le livre de la sagesse en philosophe. Vous ne comprenez pas tout. Mais vous comprenez quelque chose. C'est un livre très intelligent. Mais il faut le lire en croyant. Alors, à ce moment-là, en le lisant en croyant, ça prend une valeur nouvelle. C'est Dieu qui me révèle son regard sur Abraham, sur Isaac. C'est Dieu qui me révèle ses querelles féminines, ses jalousies masculines. Et féminine quelquefois. Et je puis, alors, à l'aide de ma philosophie, dans un regard de croyant, avoir un regard de théologien sur ce qui m'est révélé. Oui, ça fait trois lectures différentes. Il faut savoir les distinguer. On est conscient quand on lit l'Écriture en philosophe. On est conscient quand on lit l'Écriture en croyant. On est conscient quand on lit l'Écriture en théologien. Trois lectures différentes, trois objets formels différents. Il faut arriver à faire ces distinctions. On peut, si on est intelligent et que notre intelligence est éduquée par la philosophie. Si on est croyant et qu'on a reçu de Dieu la foi, nous pouvons alors unir foi et intelligence. Comment les unir ? Est-ce que je peux les unir spontanément ? Est-ce que toujours l'intelligence peut être assumée par la foi ? Le Saint-Père a bien précisé dans son encyclique, a bien précisé qu'il fallait une philosophie réaliste qui touche la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. En réalité, l'homme, créé à l'image de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle philosophie. N'importe quelle philosophie risque d'abîmer, de dégrader l'affirmation de foi. Si j'ai une philosophie qui ne connaît pas la finalité, qui regarde les choses en elles-mêmes sans regarder la finalité, cette philosophie ne pourra pas m'aider au point de vue de la foi. Elle sera comme étrangère à la foi. Je sais très bien que je puis très bien être comme étranger à la foi, le païen, le non-croyant, qui se met comme extrinsèque à la foi. Je ne peux l'atteindre que par ma philosophie. Et je vois très bien que lui refuse ce contact entre foi et intelligence. Et donc, il refuse cette réalité spéciale qui est la réalité du théologien, où il y a un apport humain à l'égard d'une réalité divine, surnaturel. Et je n'hésite pas d'apporter certaines notions à cette recherche. Si je comprends que seules les notions parfaites peuvent être attribués à Dieu, des notions qui n'impliquent aucune imperfection. Et si, lorsqu'il s'agit de l'homme, il s'agit de comprendre que son âme est créée, et donc qu'il est dans une dépendance radicale à l'égard de Dieu, et grâce à cette dépendance radicale, il peut étudier, il pourra comprendre comment il peut se servir de toute son expérience pour précéder des notions les plus parfaites, qui n'impliquent aucune imperfection, qu'il pourra s'en servir pour avoir un regard contemplatif sur Dieu, enrichi de toutes ses expériences. C'est pour ça que la théologie si on est croyant, si on est philosophe, elle se fait tout le temps. Elle se creuse tout le temps. On commence par la philosophie. Et du fait même qu'on commence par la philosophie et que vous êtes, vous, croyant, puisque vous êtes novice, puisque vous avez fait une profession, vous êtes croyant. Je ne doute pas que les petites religieuses soient croyantes aussi, n'est-ce pas ? Donc, puisque vous êtes croyant et que vous avez quand même une intelligence humaine, votre intelligence humaine, vous pouvez très bien, certains le font, dire « c'est tout à fait différent, je ne m'en occupe pas, ma vie divine, elle est en dehors de mon expérience humaine ». On sait que c'est pas vrai, puisque Dieu, par le Christ, est venu sauver l'homme. Sauver l'homme, et donc il lui demande d'être un croyant, et lui demande de comprendre en lui tout ce qui peut être sauvé, transformé par la grâce. Et c'est faire œuvre de théologien, ça, par l'obéissance. Il comprend que tout pourra remonter jusqu'à Dieu. Les moindres occupations, très simples, peuvent être faites par obéissance. Elles peuvent être faites avec ce souci de remonter jusqu'à Dieu et d'offrir à Dieu mon activité. La théologie pratique, elle se fait tout le temps. On est croyant et on est homme. On a les occupations humaines. Il y a des occupations humaines qui peuvent être offertes à Dieu, mais non pas transformé par la grâce. Les mathématiques, les connaissances scientifiques, je peux très bien les faire par amour pour Dieu, mais je sais aussi que les connaissances scientifiques que je peux avoir sur l'électricité ne me serviront pas la grâce, qui n'est pas une pile électrique, d'autre chose. Oui. Seul, ce qui implique une perfection totale peut être assumé directement et me parler de Dieu. Alors, lorsqu'il s'agit de l'homme, je vois comment l'homme, dans sa nature humaine, il demeure dans sa nature humaine. Donc, toute ma philosophie qui étudie l'homme, qui essaie de comprendre ce qu'est l'homme, je peux m'en servir en comprenant bien que tout ce qui est humain en moi doit être transformé dans la lumière de foi, d'espérance et de charité. Qu'est-ce qui peut être transformé en moi ? Tout ce qui est volontaire, ce qui est présent en moi pour être ma nature humaine, ma raison. qui résonne. Peut-elle être directement assumée par la grâce ? Non. Elle sera transformée par la grâce, en ce sens que la grâce pourra la porter, mais ne peut pas la transformer intérieurement. Alors il y aura un grand problème théologique. Qu'est-ce qui peut être transformé immédiatement ? Qu'est-ce qui ne peut pas être transformé immédiatement ? Mais qui peut être offert à Dieu. Tout ce qui n'est pas transformé directement peut être offert à Dieu. Ça fait partie de ma vie humaine, ça, d'offrir à Dieu tout ce qui n'est pas immédiatement assumable. Mais vous voyez toutes les erreurs théologiques qui peuvent se faire. C'est de croire qu'on peut assumer certaines réalités qui ne sont pas assumables. Puis-je assumer les mathématiques dans ma foi? Je peux faire un travail de mathématicien pour Dieu, mais sachant très bien que mes mathématiques ne peuvent pas être transformées par la foi. Je connaissais quelqu'un qui me parlait des mathématiques chrétiennes. Alors les mathématiques chrétiennes arrivaient à des conclusions étonnantes. Mais c'était vouloir baptiser les mathématiques. Est-ce que vous pouvez baptiser les mathématiques, faire des mathématiques chrétiennes ? Non. Mais le mathématicien peut être baptisé. Mais si le mathématicien s'identifie à ces mathématiques, ah, grave problème. On doit se poser toujours ces questions-là. Dans toutes les découvertes du monde, d'un monde scientifique, d'un monde qui est pris par les mathématiques remplacent la métaphysique aujourd'hui. Elle sert à tout. Alors, il y a de moins en moins de choses qui peuvent être transformées par la foi. Et de plus en plus, un monde mathématisé, mathématique, peut être offert à Dieu si le travail que je fais est bon, il est finalisé et offert à Dieu. Mais en lui-même, il demeure humain, non baptisable, non capax. C'est une très grande question, celle-là. Qu'est-ce qui peut être baptisé ? Qu'est-ce qui peut être transformé par la grâce ? Mon intelligence peut être baptisée par la grâce ? Est-ce que ma raison peut être transformée par la grâce ? Est-ce que si je suis chrétien, je raisonnerai mieux ? Est-ce que si je suis chrétien, je contemplerai mieux ? Voyez, là, on entre dans une quantité de problèmes extrêmement importants pour notre vie humaine, mais qui restent toujours des problèmes très délicats.